RCF. Bonjour à toutes et à tous. Dans un monde en perpétuelle mutation, les organisations sont confrontées à des défis sans précédent. L'innovation managériale, les transitions écologiques et l'évolution des méthodes de travail sont devenus avec le temps des enjeux cruciaux pour assurer la pérennité des organisations et des entreprises. L'innovation managériale, elle, est essentielle pour répondre aux attentes d'une main-d'œuvre de plus en plus diversifiée et exigeante. 18 millions de démissions cette année. Les anciens modèles hiérarchiques laissent désormais place petit à petit à des structures plus agiles, plus collaboratives, à l'intelligence collective. Les entreprises qui adoptent des pratiques managériales, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des études, montrent bien que cette forme de reconnaissance de l'autonomie, de l'encouragement à l'initiative, permettent une augmentation de l'engagement et de la productivité de leurs employés. Des méthodes qui favorisent un environnement de travail où chacun se sent valorisé à sa place et où les talents peuvent s'exprimer pleinement. Alors parallèlement à la question de l'innovation managériale se pose aussi la prise de conscience croissante des enjeux environnementaux qui poussent les organisations à intégrer des pratiques de plus en plus vertueuses, durables dans leurs opérations. La transition écologique ou les transitions écologiques ne sont plus pour ces entreprises, pour ces organisations, une option mais une véritable nécessité. Les entreprises doivent donc adopter des stratégies qui minimisent leur impact environnemental, que ce soit par la réduction des émissions de carbone, l'économie circulaire ou l'utilisation de ressources renouvelables. Ces transitions sont non seulement bénéfiques, bien évidemment, pour la planète, mais aussi pour la réputation. C'est ce qu'on appelle la marque employeur. Ça permet à la fois d'attirer de nouveaux talents, mais aussi de les fidéliser. Puis enfin, l'évolution des méthodes de travail, accélérées par la technologie, par la Covid, le télétravail, les espaces de coworking, les horaires flexibles sont devenus aujourd'hui monnaie courante dans les entreprises, bien que certaines reviennent un petit peu sur la question. Ces nouvelles formes d'organisation du travail permettent de meilleures conciliations entre vie professionnelle et personnelle, augmentent la satisfaction des employés et améliorent leur performance. Mais tout le monde n'est pas d'accord. En conclusion, l'innovation managériale, les transitions écologiques, l'évolution des méthodes de travail sont des leviers essentiels pour les entreprises modernes. Si elles ne le font pas, elles risquent de mourir. Mais je vous assure, il y a des solutions pour ça. Ça s'appelle la fabrique du changement. Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions. On a posé nos micros sur les bords de l'Erdre à la Fabrique du Changement qui fête ses 10 ans cette année. La Fabrique du Changement, c'est un événement qui a lieu à Nantes, mais aussi dans le Finistère, qui a lieu aussi à Lille, dans l'océan Indien et en Belgique. Donc un rassemblement francophone dédié à l'innovation managériale. Et c'est ce que l'on va voir avec nos invités tout au long de cette Fabrique du Changement. On ouvrira l'émission avec François Benenès, notre invité éco, qui nous parlera de ses 10 ans de cette fabrique du changement. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a évolué dans le monde du travail en termes de management? On verra ça avec lui. Le dossier de l'écho des solutions, c'est un invité exceptionnel. Il avait déjà été l'invité il y a quelques années maintenant de notre ami Thierry Lyonnais d'Envisage. Il s'agit de Serge Marquis, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « On est foutu, on pense trop, pensouillard, le hamster ». Avec lui, on évoquera la question du travail, de la santé au travail, de la santé des organisations. Une réflexion d'un médecin du travail, pas comme les autres, puisqu'il nous vient du Québec, vous l'entendrez à son accent. Puis on terminera avec deux jeunes qui ont lancé leur propre entreprise, Meilleur d'ailleurs, et avec eux, eh bien, on découvrira cette odyssée managériale qu'ils ont fait et en quoi ils ont pris des leçons de management en parcourant la planète et le monde. Il s'agit de Clément et de Romain Meyer. Vous avez le programme, on retrouvera bien sûr Maxime Pavlak pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous avez le programme, on commence tout de suite avec notre invité éco de cette semaine, il s'agit de François Benenès.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Voilà, l'invité éco depuis la fabrique du changement avec son fondateur il y a 10 ans, François Benenès a créé la fabrique du changement qui est à la fois une organisation de conseil en innovation managériale, mais aussi un événement qui est la Fabrique du Changement, qui se tient à Nantes tous les ans, et puis au gré des années, à Namur, à Bruxelles, à Lyon, dans l'océan Indien, Et puis à Lille, bien évidemment. Et puis vous serez, je crois, aussi en terre bretonne, François. Bonjour François Badenès.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, si on vous reçoit en invité écho de cette semaine, c'est parce qu'aujourd'hui, vous fêtez les 10 ans des deux fabriques, hein, la fabrique conseil et la fabrique événementielle. Il y a 10 ans, vous avez créé cette fabrique du changement. Quelle était l'idée originale ? Vous pensiez qu'on manquait d'imagination et de capacité innovante dans le domaine du management ?
Clairement. Clairement, oui. Alors, ça faisait un peu suite à une deuxième aventure entrepreneuriale de mon ancienne boutique qui était plutôt dans le numérique à l'époque. Je crois toujours que le numérique peut être formidable comme outil d'accès au savoir et partage de connaissances. Donc, moi, j'étais passionné notamment par la vie des communautés, humaines qui partagent leur savoir. Donc voilà, c'était un peu ça qu'a présidé au démarrage de la fabrique. L'activité conseil, elle est toute petite. On est une toute petite entreprise artisanale. Elle est sur la dimension conseil, surtout portée par moi. Mais très rapidement, ça éclot au-delà de la fabrique grâce au collectif des artisans du changement dont je crois vous avez déjà parlé.
On a parlé de ces artisans du changement, mais on peut en redire deux mots. C'est un collectif, en fait, d'artisans du changement, c'est-à-dire qui interviennent dans les entreprises, qui sont souvent des coachs, des conférenciers, des créateurs de serious game. On n'a pas encore fait d'émission sur la question du serious game, mais je trouve que c'est une question qui mériterait largement un dossier pour l'écho des solutions. C'est ça, ces artisans du changement.
Finalement, Serious Game illustre bien notre intention, c'est-à-dire l'intention de la pédagogie sur des nouveaux leviers d'innovation managériale, parce qu'on est convaincu qu'un manager français n'est pas condamné à passer la moitié de sa vie en réunion, l'autre moitié à lire des mails ou à remplir des process et des KPI. Là, on apprend tout le temps les uns des autres et puis on monte des projets ensemble. Et la fabrique du changement, en fait, le collectif est né de la première fabrique d'une bande de copains qui se sont dit mais c'était chouette ce qu'on a vécu là.
Est-ce qu'on peut pas aller plus loin
et l'événement est un bon levier de pédagogie pour faire connaître des nouvelles pratiques de changement. Donc c'est venu de ce simple constat.
10 ans d'accompagnement des structures, des organisations sur l'innovation managériale. Alors on innove tous les jours, mais quel est, si on devait poser 10 ans après, un constat sur l'évolution du management et du travail ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il s'est totalement transformé ? Il est encore à transformer, bien évidemment. Est-ce qu'il s'est totalement transformé ? Ou est-ce qu'il y a encore des points, des leviers d'action, des irréductibles, des invariants irréductibles dans la manière qu'on a d'aborder la question du travail ?
Le temps sera long. Le temps du changement est long. Isabelle Soucy et Serge Marquis nous le rappelaient hier soir dans leur conférence d'introduction.
Alors qu'ils sont les deux invités de la fabrique. Et on aura Serge Marquis comme invité du dossier d'ici quelques instants dans les codes.
Il y a 6 personnalités du Québec en tout, mais Isabelle et Serge ont ouvert les débats hier et nous ont rappelé que le changement, ça demandait du temps. Ouais. Donc, à tous les patrons qui nous demandent des résultats ou des livrables en 6 mois et un coup de baguette magique.
Donc, le changement, c'est pas maintenant, comme disait un certain président.
Pour que le climat social s'améliore et que les gens arrêtent de démissionner, par exemple, ça se fait pas en 6 mois, c'est du temps long parce qu'on agit sur la culture, on agit sur les identités personnelles, parfois les égos aussi, bien sûr, dans le management. Et par rapport à votre question, très clairement, oui, les choses ont quand même évolué en prise de conscience. Quand on parlait de tout ça il y a 10-15 ans, on passait pour des extraterrestres. Mmh. Vraiment.
Qu'est-ce qui a vraiment bougé aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est vraiment
la prise de conscience qu'on peut plus faire comme avant, et puis surtout ce qui a bougé, c'est 3 millions de démissions sur les 18 derniers mois, c'est des secteurs entiers en panne de développement faute de main-d'œuvre, c'est le secteur public qui est hyper impacté depuis 18 mois à peu près maintenant, il y a même plus assez de candidats au concours administratif. Donc il y a un problème d'attractivité, il y a des attentes légitimes des générations qui arrivent, mais je crois que c'était déjà là aussi dans les autres générations, d'un nouveau rapport au travail. Et donc, on est dans une zone un peu, je pense qu'on est dans, un temps un peu particulier d'un entre-deux qui ne dit pas son nom, d'un système qui n'a pas fini complètement de s'écrouler et d'un autre système qui émerge, en tout cas basé plus sur la confiance que sur le contrôle, qui demande qu'à émerger mais qui a encore des freins.
C'est ça. Et pourtant, la question du travail, ça fait 6 ans que je fais l'écho des solutions, ça fait 6 ans qu'on aborde les questions et les solutions qui vont avec. En effet, la crise est là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, malgré ce résultat un peu alarmiste et alarmant, on est bien outillé pour y répondre ?
On sait ce qui marche, en tout cas. Ouais. Et on le sait même sur un point de vue scientifique. À travers les neurosciences, les travaux de la psychologie positive, MIT, Harvard et plein d'autres, des laboratoires universitaires français aussi sur la psychologie sociale, on sait quels sont les leviers de motivation et de reconnaissance qu'il faut actionner pour que ça marche mieux. Ça ne veut pas dire qu'il y a un monde parfait, des équipes parfaites, une entreprise parfaite, ça n'existe pas. C'est pour ça que je ne crois pas au métamodèle. Par contre, par petites touches, par petits pas, agir sur l'humain et la qualité des relations. Mmh. Aujourd'hui, toutes les études dans le monde entier montrent que le vrai impact et la raison de motivation numéro un, c'est la qualité des relations au travail, au quotidien. Mmh. C'est un sacré enjeu, hein. C'est pas facile. Hein. Nous aussi, on s'engueule. Nous aussi, on a des coups de mou, des coups de gueule, etc. Mais justement, il faut peut-être les réaccepter. Et de ce point de vue-là, la crise sanitaire a quand même changé aussi la donne. Mmh. Le fait qu'on ait été, pour beaucoup de structures, éloignées pendant un temps par le distanciel, etc., c'est aussi un des enjeux du moment, je crois, c'est de recréer du lien social,
bien sûr.
De recréer du dialogue, des espaces de dialogue. Serge insiste beaucoup là-dessus.
Serge Marquis, pardon.
Et il a vraiment raison. Recréer des espaces de dialogue, ça veut dire aussi être capable juste de se parler, hein, simplement, de se dire bonjour le matin, de dire merci quand quelque chose de bien est fait et arrêter de pointer tout ce qui ne va pas, ce qui est un peu notre culture.
10 ans de fabrique du changement événementiel, quand vous avez créé, donc vous êtes retrouvé avec des fanas de l'innovation managériale. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ceux qui participent à ces fabriques ont aussi évolué, qu'on trouve et on voit des entreprises ou des collaborateurs d'entreprises qu'on ne voyait pas forcément il y a 10 ans dans des événements tels que ceux-ci?
Alors oui, il y en a qu'on voit plus aussi parce que ça a plutôt bien marché
pour eux, et tant mieux.
Et qu'on fait des choses. On a vu aussi beaucoup de clients évoluer depuis 10 ans qui sont passés de l'autre côté de la barrière, certains qui ont changé de métier ou d'orientation et qui ont par exemple se sont intéressés à la facilitation et aux méthodes agiles, etc. et ont voulu porter ça en interne, donc sont devenus des ambassadeurs du changement interne. Ça, c'est vraiment une évolution notable. J'ai vu beaucoup de clients créer en interne des communautés de facilitateurs, des écoles de management, enfin en tout cas essayer vraiment d'innover dans leur fonds de formation et notamment l'offre faite aux managers. Donc oui, il y a des bons signes, il y a des petites victoires. Et en fait, on a l'impression, je pense que ça sera confirmé par d'autres propos, mais d'essemer des petites graines et qui germent de temps en temps.
Merci beaucoup François Badénès. Bon anniversaire à la Fabrique du Changement.
Merci
on souhaite
beaucoup.
Longue vie à la Fabrique du Changement. Nous, on retrouve tout de suite Maxime Pavlak pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Maxime Pavlak.
Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des modèles économiques serviciels, je ne sais pas trop ce que c'est, et comme une alternative plus vertueuse pour l'environnement aux modèles économiques basés sur la vente de produits manufacturiers. Alors pourquoi ces modèles sont-ils, selon vous, Maxime, plus vertueux ?
En effet, parce que tout part en fait du constat que les modèles économiques dits classiques pour la vente de produits manufacturés sont souvent des modèles où la maximisation de mon profit passe par la maximisation du volume de vente. Et avec cette augmentation de mes ventes, évidemment, la consommation de matières premières et d'énergie augmente également, ce qui conduit à un impact environnemental croissant. Donc, pour sortir de cette problématique, les modèles serviciels, eux, permettent un changement de paradigme vertueux. Plutôt que de proposer à la vente un bien, on en propose soit la location, soit on peut même aller plus loin en vendant l'effet attendu par l'usage du produit sous la forme d'un service.
Mmh. Alors, ça veut dire quoi, Maxime ? Vous dites donc que les modèles économiques classiques basés sur le volume de vente n'est pas quelque chose qui soit vertueux ?
Ouais, le mieux, en fait, pour l'illustrer, c'est de prendre un exemple concret. Enfin, on va imaginer que je suis un vendeur de machines à laver industrielles. Et dans mon modèle économique classique, mon volume de vente, il est corrélé avec mon profit et mon impact environnemental. Le souci, c'est que dans ce cas précis, l'ensemble des acteurs du marché n'ont pas intérêt à ce que les machines soient durables. Moins elles le sont, en fait, plus le client doit en racheter. Et la conséquence, c'est que l'on voit actuellement réduire la durée de vie de nos machines et augmenter l'impact environnemental. D'ailleurs, récemment, l'association HOP, pour Halte à l'obsolescence programmée, a publié un rapport qui révèle que ces 10 dernières années, la durée de vie des machines à laver a baissé de 30%.
Alors en effet, on comprend bien tous les enjeux qu'il y a derrière. Et en quoi donc ce modèle serviciel, est-il plus vertueux ?
Eh bien, il est plus vertueux parce que si je décide non pas de vendre, mais de louer mes machines, par exemple, alors je passe dans un modèle économique où j'ai intérêt à ce que ces machines durent le plus longtemps possible avec un coût d'entretien réduit. Donc j'ai naturellement tendance à améliorer la durabilité de mes produits. Puis je peux même aller un cran plus loin. dans mon modèle économique, je réfléchis, comme je vous le disais, à l'effet attendu par mes clients. En l'occurrence, pour un vendeur de machines à laver industrielle, je peux envisager de passer à un modèle serviciel rémunéré à la tonne de linge lavé, par exemple. Dans ce cas, en plus de la durabilité de mes machines, j'ai intérêt à optimiser leur usage par mon client afin de vendre le moins de machines possible pour laver un maximum de linge. Donc, je vais travailler à d'autres sujets. Je vais travailler à l'augmentation de la capacité de chargement, probablement aussi proposer, pourquoi pas, un logiciel qui permettra à mon client l'organisation optimale de ses lavages. Et de cette manière, je ne suis plus un simple fabricant de machines, j'ai ajouté une couche logicielle. Mmh. Et puis, je pourrais aller plus loin encore en disant que je suis aussi responsable à mon client de tous les coûts externes. Et dans ce cas, je dois donc aussi optimiser la consommation en eau et en électricité de mes machines pour augmenter mon profit.
Alors, en effet, dans ce cas-là, on voit bien que ce modèle devient plus vertueux, Maxime, tout simplement.
Et ouais, c'est intéressant de constater qu'un modèle économique serviciel sous-tend une dynamique optimale d'un point de vue des ressources. Et je pense que c'est pour ça qu'il est important pour les entreprises qui vendent des produits manufacturés d'essayer de repenser leur modèle économique dans cette direction. C'est une condition importante de durabilité de leur modèle économique dans un monde plus contraint, toujours plus contraint en ressources.
Merci beaucoup Maxime Pavlak, on vous retrouve le mois prochain. Nous, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec Serge Marquis, notre invité du dossier d'écho. Hawkins qui nous interpréterait A Place Like Home sur RCF et on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions depuis le château de la poterie à la fabrique du changement.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions. Cette semaine, nous sommes à la fabrique du changement qui fête son 10e anniversaire. Et vous le savez, la fabrique du changement fête son 10e anniversaire avec nos amis québécois et j'ai la joie de recevoir Serge Marquis, connu pour son best-seller qui s'appelle Pensouillard le hamster. Pensouillard le hamster parce qu'on pense trop, je crois. Et moi le premier, je pense trop. Bonjour Serge Marquis.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous dans l'écho des solutions depuis le château de la poterie sur les bords de l'Erne. On va évoquer avec vous, vous êtes un spécialiste, vous êtes médecin du travail. Hein.
Oui.
Vous travaillez sur la question de la santé des collaborateurs, mais aussi des organisations. On parle assez rarement de la santé des organisations. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'une entreprise aille bien pour que ses collaborateurs aillent bien? On va creuser avec vous cette question-là. Et merci beaucoup. Je suis vraiment très, très heureux de vous avoir. Vous aviez été il y a quelque temps au micro de notre ami et confrère Thierry Lyonnais. Donc, c'est un retour pour vous sur les ondes d'RCF. On va évoquer cette question de la santé des organisations, Serge Marquis. Comment on est amené à s'intéresser à la question de la santé des organisations et des collaborateurs? Quand on est médecin, on soigne souvent les corps. Comment est-ce qu'on soigne l'âme? Parce que très souvent, après le corps, il y a l'âme à soigner.
Tout à fait. Il y a un lien très, très important entre les deux. Malheureusement, on a tendance parfois à séparer. Hein, alors que le corps est parfois dans sa souffrance, dans les maladies qu'il vit, un reflet de ce qui se passe au niveau du psychisme, au niveau de la santé mentale. Autrement dit, quelqu'un arrive dans le bureau d'un médecin avec un problème à l'estomac ou avec un problème au dos, peu importe. Et si on l'écoute bien, va finir par nous dire quelque chose comme « ben voici, il y a quelque chose dans ma vie qui présentement me préoccupe, m'habite, je vis aussi de l'anxiété ou de la détresse, etc. » Et souvent, la personne explique elle-même à travers ce qu'elle vit le mal qui l'amène à voir le médecin. Alors, et pour vous dire comment je me suis intéressé à la santé des organisations, c'est après avoir soigné ou pendant que je soignais beaucoup de personnes qui, pour toutes sortes de raisons, venaient dans mon bureau. D'abord comme médecin de famille, mais après comme médecin du travail, parce que je suis allé chercher une formation en médecine du travail. Alors, donc je me suis mis à soigner des gens qui ne fonctionnaient plus au travail. Ils m'étaient référés pour ça. Devenu dysfonctionnel. Alors, je dis souvent qu'ils ces personnes arrivaient dans mon bureau brûlées, vidées, épuisées. Et je dis souvent qu'elles avaient en commun deux phrases. Je ne sais plus qui je suis et je ne sais plus où je vais. Alors, donc, je voyais des personnes comme ça, les unes après les autres, qui me racontaient que la raison pour laquelle elles ne savaient plus qui elles étaient et qu'elles ne savaient plus où elles allaient, c'était parce qu'elles vivaient quelque chose de très difficile dans l'espace de travail. Et c'est là que je me suis intéressé à la santé des organisations. Parce que j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer un psychiatre qui était un de mes enseignants, professeur, à Londres, Alexis Brooke, que j'aime bien le nommer parce qu'il a changé ma vie. Et il disait que souvent, les personnes qu'il voyait dans son bureau étaient des symptômes d'une maladie de l'organisation. Autrement dit, si on soignait l'organisation, bien les symptômes n'étaient plus présents. Alors, comment soigner? Qu'est-ce qu'une organisation malade?
C'est quoi? C'est vrai, c'est quoi? C'est on vous écoute, hein, on est suspendu à vos lèvres. En effet, les organisations, c'est quoi une organisation
malade? C'est quoi une organisation malade? Bon, alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent...
entrer en ligne de compte?
Tout à fait. Alors, entre autres, souvent, ce dont les personnes parlent, c'est fascinant parce que c'est lié à la reconnaissance, c'est-à-dire à l'absence de reconnaissance. Je n'existe plus à l'intérieur de cette organisation. Je suis devenu un meuble. Je suis devenu un numéro. Alors, donc, il y a un travail à faire à deux niveaux. Il y a un travail à faire sur l'individu par rapport à son regard, sur l'importance qu'occupait son travail dans sa vie, au niveau, j'ai envie de dire, identitaire. Toute l'identification qui a été très, très présente, ça change, ça évolue, mais qui était très présente dans cette société pendant plusieurs générations. Je suis ce que je fais. Une erreur, d'ailleurs, nous ne sommes pas ce que nous faisons. C'est très important. Parce qu'il y a un travail à faire par la personne sur le regard qu'elle porte sur son travail, et il y a aussi un travail à faire avec l'organisation, sur ce qui a été mis en place au niveau de ce qui entraîne des surcharges, des sous-charges. J'aime bien parler de sous-charges parce que il y a des personnes dont le potentiel ne peut pas s'exprimer. L'intelligence ne peut pas participer aux décisions qui les concernent, par exemple. Et c'est là qu'on fait un lien avec la reconnaissance.
Est-ce qu'il y a un lien à faire aussi avec la notion de résilience? Patricia Asensi-Ferré, en France, a une association qui s'appelle Envie de Résilience, qui accompagne justement les organisations sur sa capacité aussi, pour les organisations, pour qu'elles aillent mieux, de savoir faire résilience.
Oui, ah, tout à fait. Ben, la résilience, c'est la capacité. Moi, j'aime bien cette définition de retomber sur ses deux pattes, de retrouver ses chaussures après avoir traversé une période difficile. Pendant même qu'on traverse une période difficile, la capacité qu'une substance a retrouvé sa forme, etc. Alors, les organisations peuvent traverser des périodes difficiles. Ça demande à la fois une intelligence au niveau des managers et une intelligence collective. J'aime bien l'expression intelligence collective. On l'utilise beaucoup ici en France. On l'utilise pas encore beaucoup au Québec, mais je pense que ça va venir. Parce que c'est cette mise à contribution de ses intuitions, de ses expériences et de cette capacité qu'on a tous et toutes à trouver un sens ou à donner du sens qui est mise à contribution. Alors, je parle souvent d'espace de parole qu'on peut créer pour mettre à contribution ces capacités.
On dit souvent que l'Amérique du Nord, le Québec en particulier, a toujours quelques années, 5, 10 ans d'avance sur nous, sur le rapport et le sens du travail, le stress au travail. On en est où au Québec, Serge Marquis, en ce moment?
Il y a une évolution qui va avec l'évolution sociale, parce que il y a des très, très, très grands changements qu'on voit au niveau des générations. C'est important d'en tenir compte, mais il y a aussi l'apparition des nouvelles technologies qui modifient complètement l'organisation du travail. Il y a l'apparition beaucoup du télétravail. Il y a toutes ces dimensions-là qui nous obligent à réfléchir. Et au Québec, il y a une réflexion qui se fait actuellement dans l'univers du travail à propos de la résilience. Comment à la fois s'adapter et comment demeurer résilient dans un contexte où c'est très difficile de savoir où on s'en va.
C'est quoi les sources de stress sur lesquelles vous intervenez le plus aujourd'hui, Serge Marquis?
Je pense que c'est beaucoup la notion de sens, réellement. Parce que moi, j'ai beaucoup œuvré avec les gens du monde de l'éducation et les gens du monde de la santé. D'autres mondes, bien sûr, mais surtout ces deux mondes-là, ces deux univers-là. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes dans les deux univers, éducation et santé, qui avaient l'impression d'être déconnectés du sens de leur travail parce qu'elles avaient l'impression d'être déconnectées des valeurs les plus profondes qui les habitaient. Quand quelqu'un choisit d'aller travailler dans le monde de l'éducation ou dans le monde de la santé, c'est un choix de contribuer à plus grand que soi, à soigner, éduquer, c'est magnifique, mais c'est contribuer à plus grand que soi. Elles ont maintenant l'impression de ne plus pouvoir faire ça parce qu'elles ont souvent l'impression d'être réduites à travailler au niveau très technique très rapidement parce que nécessairement il y a une pénurie de main d'œuvre, ça explique une partie.
C'est la vraie problématique qui existe aujourd'hui.
Il y a une problématique réelle à ce niveau-là. Il y a aussi faire plus avec moins. Ça, c'est une phrase qui a été prononcée très fréquemment. Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça voulait dire, quand est-ce que ça arrêtait, est-ce qu'il y avait une limite à ça, faire plus avec moins. J'ai vu les infirmières être abandonnées parce qu'elles avaient l'impression tout à coup de ne plus être capable de prendre le temps de tenir une main, de ne plus être capable d'écouter quelqu'un, de ne plus être capable de soutenir un regard. Ça, c'est très important, le regard d'un patient. J'ai vu des enseignants, des enseignantes aux prises avec des difficultés vécues par deux ou trois élèves dans une classe. Donc, toute leur attention était absorbée par ces deux ou trois élèves-là. Et elles avaient tout à coup l'impression de ne plus être capables de s'occuper des 25 autres, 28 autres. Alors, donc, il y avait une déconnexion avec les valeurs profondes qui les habitaient.
Vous êtes médecin. Qui est-ce qu'on soigne? On soigne le leader, c'est-à-dire le directeur d'école, le directeur de l'hôpital. On soigne la personne qui est, je ne vais pas dire traumatisée, mais qui est abîmée par l'environnement, par les tâches et le travail, par la déconnexion du sens qu'elle a au travail.
Ça commence toujours par la personne qui se sent déconnectée et qui arrive, encore une fois, dans un état brûlé, c'est brûlé de l'intérieur. C'est très important parce que j'ai aussi, comme médecin, vu des grands brûlés de l'extérieur. Mais parfois, je disais, moi, je travaille avec des grands brûlés de l'intérieur.
C'est le fameux burn-out.
Mais c'est cette espèce d'énergie qui ne les habite plus. De là, le mot épuisement, d'ailleurs. Donc, les premières personnes qu'on rencontre, c'est celles qui sont brûlées de l'intérieur, qui viennent voir quelqu'un pour les aider à retrouver leur vie, à reconnecter à leur vie. Et puis après, ça nous amène à intervenir dans le milieu. Moi, c'est ce que j'ai eu la chance de faire, le privilège de faire, à partir de ce qui m'était raconté, d'essayer de voir s'il n'était pas possible de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui doivent...
Mais c'est compliqué d'aller voir quand même l'organisation en leur disant, écoutez, j'en suis au troisième patient qui vient de me voir, il y a un problème chez vous, il va peut-être falloir le régler, parce que sinon... Au-delà des patients, c'est peut-être même votre organisation qui est en danger.
Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est pas toujours évident de frapper une porte et que cette porte s'ouvre. C'est pas toujours évident. Mais il y a des canaux. Et ça, c'est intéressant, parce que, par exemple, dans des organisations, il y a des services de santé qui sont là pour soigner, mais qui se sont pas rendus compte du problème. Alors, il y a des services de santé, parfois, au sein de l'organisation. Il y a le syndicat, il y a l'employeur qui peut parfois avoir une oreille très attentive. Il faut pas négliger... moi, je l'ai fait. Donc, je peux dire que ça fonctionne. J'ai appelé des employeurs en disant, écoutez, dans l'anonymat, parce que c'est délicat aussi.
Bien oui, c'est ça.
Il faut respecter l'anonymat. Mais en disant, écoutez, je m'interroge. Je suis médecin du travail, je m'interroge. Pourrait-on se rencontrer, échanger, Mais surtout si ça fait plus qu'une personne, là, si 10, 15 personnes qui viennent du même milieu. Et il y a parfois des ouvertures surprenantes. Il faut aussi apprivoiser les préjugés. Il faut aussi apprivoiser les croyances qu'on pourrait avoir. Mmh. « Oh non, ça ne fonctionnera pas, on ne me recevra pas. » etc. Non, il faut apprivoiser ça.
C'est ça, il faut sortir de l'idée que « Non, ça ne marchera pas, on a toujours fait comme ça et c'est très bien. »
Exactement. Alors donc, et si on frappe à une porte, elle peut s'ouvrir alors qu'on pensait qu'elle ne s'ouvrirait pas. Et tout à coup, il peut y avoir une prise de conscience. Mais je n'avais pas vu ça. Mmh. Je n'étais pas conscient de ça ou consciente de ça.
C'est quoi la plus belle transformation d'organisation, j'ai envie de dire, thérapie que vous ayez menée sur une organisation où vous dites, voilà, là, il y a des gens qui ont été à un moment conscients de la problématique, ils ont accepté le diagnostic, ils ont accepté l'ordonnance et aujourd'hui, ils sont guéris, ils sont en rémission.
Ah oui, tout à fait. Spontanément, il y en a eu plus que
plus
au
qu'une,
cours de mon humble, de mon humble existence.
Il vaut mieux, il vaut mieux.
Il y en a plus qu'une, mais je me souviens spontanément d'un individu qui était arrivé dans mon bureau parce que il avait été suspendu pendant plusieurs mois parce qu'il avait été violent. Il avait projeté un objet au visage d'une supérieure. Enfin, heureusement, il l'avait pas blessé, mais il avait été suspendu. Alors, je l'avais eu dans mon bureau. Et après l'avoir interrogé, je m'étais rendu compte qu'il y avait eu des transformations au niveau de l'organisation et qu'il y avait eu une augmentation de sa charge de travail qui ne correspondait pas aux moyens qu'il avait en sa possession pour pouvoir l'assumer. Alors, donc, je me disais, mais non, mais c'est pas le problème vient du fait que lui, comme individu, là, il y a une tension psychique qui s'est élevée et cette tension psychique a fait qu'il y a eu un débordement. Alors, si on ne change pas l'organisation du travail, il y en aura un autre qui va éventuellement lancer un objet et ça finira plus. Alors, bon, ben, j'ai eu l'opportunité de communiquer parce qu'il était suspendu. Alors, l'employeur savait qu'il était suspendu puis il n'y avait pas de problème de sa part pour que je puisse contacter l'employeur pour voir s'il était pas possible de modifier l'organisation du travail. Alors, et on a effectivement regardé ensemble ce qui s'était passé dans les mois qui avaient précédé l'événement. Et l'individu a été déplacé dans un autre département. Et il y a eu une réorganisation à nouveau, mais qui est respectueuse des capacités, du potentiel des personnes qui
assument cette tâche. Ce que vous dites là, c'est j'ai envie de dire, c'est le B.A.B.A. des RH. Ça veut dire qu'il y avait aussi, il y avait quand même aussi un dysfonctionnement du côté des ressources humaines dans cette organisation.
Oui, tout à fait. Mais c'est souvent comme ça.
C'est souvent comme ça.
Ben, d'ailleurs, c'est intéressant, hein, ressources humaines, cette expression, à bien des endroits où je suis allé, j'avais l'impression qu'on n'avait pas la même définition de ce que ça voulait dire, ce que ça signifiait s'occuper des ressources humaines. Ouais. J'avais plutôt l'impression à certains endroits que c'était le contraire, qu'on trouvait le moyen de faire en sorte que la productivité augmente et non pas qu'on s'occupe du bien-être des ressources humaines. Mmh. C'est là qu'est la distinction. Moi, j'arrivais avec mes yeux naïfs et je me disais, mais voyons, c'est simple. S'occuper des ressources humaines.
C'est amusant parce que j'entendais dernièrement, je suis très amateur de podcasts, comme beaucoup d'auditeurs d'ailleurs aujourd'hui écoutent l'audio via ces plateformes de podcasts, et c'était très intéressant, c'était sur la notion de bien-être et de bonheur. Ces mots bien-être et bonheur étaient présents au départ dans la Constitution des États-Unis, étaient présents au départ dans la Constitution française. On les a retirés parce qu'en fait le bonheur fait peur. La notion de bonheur, s'engager sur le bonheur et le bien-être, et on a l'impression qu'aujourd'hui, les entreprises commencent à s'en emparer. Vous en parliez juste à l'instant, le bien-être des collaborateurs, les chief happiness officers, les responsables du bonheur dans l'entreprise. Petit à petit, on s'engage sur la question du bonheur. Est-ce que vous voyez poindre du point du médecin du travail que vous êtes et de la santé des organisations, cette transformation des organisations, ou ça reste encore un épiphénomène?
Il y a une transition. Il y a une transition. Il y a encore malheureusement des regards qui ne conçoivent pas qu'un être humain qui est bien dans sa peau est un être humain qui va faire son travail adéquatement. C'est tellement simple. Alors qu'un être humain qui est pas bien dans sa peau, ben, va résister. Il y en a même qui vont vouloir saboter. Il y a toutes sortes de choses qui vont arriver quand un être humain n'est pas bien dans sa peau. Mais ce n'est pas évident parce qu'on est dans la vieille conception du travail encore à bien des endroits. On croit être sorti de l'esclavage, puis toutes ces histoires où il y avait une autorité qui dominait, qui dictait ce qui devait être fait. Et on avait aussi l'impression que pour qu'un travail soit bien fait, il fallait qu'il y ait une certaine souffrance, que ce soit pénible, que ça ne pouvait pas être fait dans la joie, bon, etc. C'est tellement ridicule. Un travail peut être très bien accompli dans la joie, même qu'il va être encore mieux accompli, puis ça, on le sait, maintenant, c'est clair, scientifiquement démontré.
C'est ça.
Alors que quelqu'un qui travaille dans la joie, dans le bien-être, va être très productif. Moi, si je me sens tellement créatif, quand j'ai l'impression que toutes mes ressources sont mobilisées, mises à contribution, et que ce que je fais, ça a un sens. Alors, enfin, mais ça évolue. Parce que
sens et reconnaissance. Hein.
Tout à fait. Les deux sont ensemble. Hein. D'ailleurs, il y a des gens qui prennent le mot reconnaissance et l'épellent en finissant avec S-E-N-S, reconnaissance. Alors, je trouve ça très, très beau comme lien. Oui, tout à fait. Alors, donc, mais il faut sortir de ces vieilles croyances, ces vieux patterns. Il faut que ça soit souffrant, il faut suer, il faut transpirer, quitter le paradis terrestre, en quelque part, bon, etc.
Le côté janséniste du travail.
Il y a encore cette dimension aussi. Si
travail, peu... tripalium, l'outil de torture. Hein, si ton chien... Si le travail n'est pas difficile, c'est pas un bon travail.
C'est ça. S'il n'y a pas de sueur, là, s'il n'y a pas de souffrance,
de sang et de larmes.
Ça n'est pas du travail. Alors que c'est extraordinaire de voir n'importe quelle personne qui crée dans le bien-être, là, à quel point elle peut produire des choses magnifiques.
Qu'est-ce que vous voyez poindre aujourd'hui? On parle beaucoup du sens, la notion de marque employeur. Qu'est-ce que vous voyez poindre aujourd'hui sur lesquels vous, en tant que médecin, santé des organisations, santé au travail, vous dites attention, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui vient à la fois apporter des solutions, mais en même temps qui risque aussi peut-être de faire perdre à certains le sens même de leur travail. Quelles sont les choses que vous voyez poindre en ce moment?
Il y a des inquiétudes que je vis, bien sûr, par rapport à la rapidité avec laquelle tout ça va, puis à l'espèce de déshumanisation là, que ça génère, parce que ce sont les machines qui s'occupent de tout. Mais où est l'être humain? Moi, j'aime bien donner l'exemple. Oui, quand je vais à la banque, maintenant, il n'y a qu'une personne dans la succursale où je vais. Une personne. Alors qu'il y a quelques années à peine, je pouvais rencontrer quelqu'un avec laquelle, des personnes avec lesquelles je développais une relation. Parce que nous sommes des êtres de relation. Oui. On est reliés entre nous, les êtres humains, mais on est reliés aussi à tout notre environnement. Souvent, si on coupe tous les arbres, on meurt parce que l'arbre fabrique notre oxygène, on oublie ça. Donc, on est des êtres de relation. Sommes-nous des êtres de relation avec des machines? La machine devrait être un outil pour nous permettre d'être davantage en relation, pas uniquement pour transmettre une information, ça aussi c'est presque devenu un cliché de le dire, mais pour être connecté à l'autre, littéralement. Et c'est ça qui m'inquiète, là. Je vois apparaître toutes sortes de choses qui, ça va tellement, tellement vite.
Le télétravail, la COVID ont accéléré les choses pour vous,
ouais, il y a eu,
Serge Marquis?
Moi, je crois qu'on n'est pas encore adapté complètement. on est en train de, je dirais, de trouver ce qu'on a perdu, de découvrir ce qu'on a perdu, de découvrir ce qu'on a gagné et d'essayer de trouver un équilibre à travers tout ça. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont gagné des choses en étant à la maison, en ayant des horaires flexibles, en pouvant s'occuper davantage de la famille, des enfants, aller chercher plus facilement à l'école, à la garderie, enfin, peu importe. Mais en même temps, on a perdu, moi, je trouve, ce que j'appelle l'espace de machine à café, c'est-à-dire le moment...
Certaines entreprises, d'ailleurs, ont changé leur... ont préféré mettre davantage d'argent, je pense à des gros groupes, hein, comme Renault en France, préfèrent mettre beaucoup d'argent dans l'espace de convivialité avec des bureaux qui soient complètement neutres pour que, justement, le retour dans l'espace travail soit d'abord une envie de refaire de la convivialité.
Ben, c'est ça. La personne qu'on rencontre le matin dans le corridor, « Oh, j'ai quelque chose à te demander, as-tu une minute autour de la machine à café, comme je disais tout à l'heure, etc. » Ça, c'est précieux.
Et puis, on ne peut pas la faire virtuellement, cette machine à café.
Non,
pas
encore, c'est ça. Donc, on n'est pas encore capable de bien mesurer tout ce qu'on a, qu'on devra protéger, qu'on devra trouver le moyen de conserver, encore en lien avec la connexion. Parce que si je suis dans le corridor, que je rencontre une personne le matin, bonjour, oh, j'ai oublié de te dire, ou j'ai pensé à ça ce matin en me réveillant, j'ai quelque chose à te demander. Alors, ça, c'est pas évident de faire un Teams ou un Zoom pour faire ça.
Vous accompagnez un peu les entreprises aussi sur la mesure d'impact, parce que c'est très bien de transformer, d'innover, de soigner son entreprise. Encore faut-il mesurer l'impact. On peut accompagner, vous accompagnez aussi les entreprises pour faire une sorte de bilan de santé régulier et récurrent. C'est pas parce qu'on est guéri qu'il faut pas faire attention à son bilan sanguin.
Non. Bien sûr, ça je l'ai fait. Je le fais moins maintenant, mais je l'ai fait. J'ai travaillé aussi avec des universités. Il y a même des universitaires qui étaient disponibles pour entrer dans des entreprises et évaluer les interventions qu'on pouvait faire en santé au travail. Ce qui se passait avant, ce qui se passait après l'intervention, 6 mois plus tard, et qui démontrait qu'il y avait des effets incroyables quand on s'arrêtait. Le mot s'arrêter, pour moi, est un mot super important. Quand on s'arrêtait pour donner du temps à ces questions-là et mettre en place des mesures qui pouvaient permettre à des êtres humains de reconnecter avec eux, comme disait mon ami... une amie à moi qui s'appelle Isabelle Soucy, qui reconnectait avec eux, reconnectait aux autres et reconnectait avec l'environnement. Donc, quand on s'arrête pour constater qu'il y a eu des ruptures, quand on s'arrête pour constater qu'il est possible de recréer ces liens-là en créant des conditions qui vont les favoriser, on voit, on les mesure, les résultats, les impacts.
Alors Serge Marquis, vous avez édité il y a quelque temps un ouvrage qui fut un best-seller international. Il s'appelle en France « Pensouillard, le hamster ». Pourquoi ? Parce qu'on pense trop aujourd'hui au quotidien. Oui. Globalement, on a une tendance à trop penser et à ne pas arrêter son cerveau.
Ah, là, vous me posez une question qui me fait tellement plaisir. Le titre du livre en France, c'est « On est foutu, on pense trop ». Et ça parle de « Pensouillard, le hamster ». En fait, oui. C'est-à-dire qu'on ne pense pas juste. Il y a un tas de pensées inutiles à l'intérieur de notre cerveau toute la journée. Entre autres, des jugements sur soi-même. Je suis nul. Je n'ai pas les compétences nécessaires. Je suis trop vieux. Je suis trop jeune. Je suis trop ci. Je suis trop ça. Je suis pas assez belle. Je suis pas assez beau. Bon, etc. Alors, ces pensées-là circulent sans arrêt. Et il y a aussi des jugements sur les autres. Et ça, je tire ça d'un médecin qui s'appelle Richard Moss, qui a beaucoup travaillé avec les personnes souffrant d'anxiété. Il disait que l'attention, la plupart du temps, est accaparée par des cadrans comme le jugement sur soi, le jugement sur l'autre. 4 cadrans, en fait. Le retour dans le passé, l'amertume, les regrets, bon, etc. Ou dans le futur, ça fonctionnera pas, on n'a pas les compétences nécessaires. Et que l'attention n'est pas dans le présent. Donc, il y a un paquet de pensées, qui, au fond, c'est la rumination.
Ouais. Et qui nous empêche de fonctionner, en fait.
Ben, quand on a un jugement sur soi, et ça commence tôt dans la vie, hein, ça peut commencer très, très tôt. Un enfant qui sort de l'école, qui dit « je suis nul », parce que il y a simplement son copain lui a dit qu'il y avait une carte Pokémon qui était moins forte que la sienne, et que l'enfant dit « je suis nul », cette phrase prononcée dans la tête, c'est comme si tout l'enfant au complet était nul. Au complet.
Alors comment on en sort ? Comment on en sort ? Moi, j'ai une tendance à penser tout le temps. comment je peux mettre mon cerveau sur off à un moment donné pour dire c'est bon, Patrick, arrête de penser trop ?
Ben, la première chose, c'est une observation, c'est d'en prendre conscience. Il y a plein de gens qui réalisent pas qu'il y a ces jugements sur eux-mêmes dans leur tête, ou ces jugements sur les autres, ou les regrets, les remords, bon, etc., le mépris. Alors, ils en sont pas conscients. Alors, première chose, c'est une observation de ça. Et là, on doit jouer avec l'attention. L'attention ne peut pas être à deux places en même temps, neurologiquement. Alors, si l'attention est accaparée par ces jugements sur soi-même, elle n'est plus dans le présent. Ce qu'on peut faire, c'est ramener l'attention sur quelque chose de concret. Comme elle ne peut pas être à deux places en même temps, au même instant, si elle est accaparée par un jugement sur soi, elle n'est plus dans le présent. Donc, si on la ramène dans le présent, on débranche la roue du hamster. On le fait s'apaiser, littéralement. C'est pour ça qu'on parle de méditation, c'est pour ça qu'on parle d'exercices de tai chi, c'est yoga, peu importe. Ce sont des exercices pour jouer avec l'attention. En fait, c'est un laboratoire. Tous ces exercices sont comme un laboratoire pour nous permettre, dans des situations n'importe laquelle, j'arrive dans ma voiture, je suis au feu de circulation, au feu rouge, et là, ça peste contre le feu de circulation. Je suis au supermarché, dans une file d'attente, je peste contre la caissière.
Est-ce qu'il faut en rire, alors, à ce moment-là? On s'en aperçoit, je pense trop, j'en rigole,
tout
et je
fait.
Passe à autre chose?
Ça va devenir spontané, le rire. Mm. Le rire, on va rire spontanément, parce qu'on va finir par se rendre compte... Hey, c'est incroyable. Encore un jugement négatif à mon sujet, encore un jugement sur l'autre. On s'en rend compte. Et en ramenant l'attention sur son souffle, par exemple, ou sur une sensation corporelle, on a quelque chose dans la bouche qu'on aime, peu importe, sur quelque chose de très concret, là, on va en rire. On va finir par dire, tiens, c'est encore ce hamster qui avait accaparé toute l'attention. Et là, on va pouvoir partir d'un éclat de rire, littéralement. Et spontanément. Alors, mais il faut s'entraîner. Il faut vraiment s'entraîner. Comme on s'entraîne physiquement, d'ailleurs, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, cancer, peu importe, ben, on peut s'entraîner psychiquement. Moi, j'ai toujours, c'est important d'entraîner, c'est aussi important d'entraîner ce qu'on a au-dessus des épaules qu'en bas des épaules. Et cet entraînement psychique amène un réflexe. C'est important, un réflexe. Où tout à coup, il y a une vigilance qui apparaît. Et cette vigilance nous permet de découvrir que notre attention est accaparée par le hamster. Et quand on s'en rend compte, choum, on peut la ramener dans le présent sur quelque chose de concret. Là où est notre créativité, là où est notre intelligence. Et avoir des pensées utiles, avoir des pensées justes, au lieu d'avoir des pensées qui conduisent nulle part, de là la roue du hamster, à travers des jugements sur soi qui n'amènent pas une transformation de soi. Je suis nul n'amène pas une transformation de soi. Ça va être plutôt que puis-je faire pour changer. Aller dans le passé pour dire mes parents, j'aurais pu avoir des meilleurs parents, j'aurais pu avoir des meilleurs enseignants, j'aurais pu avoir...
Ça n'apporte rien.
Ça n'apporte rien. C'est plutôt que puis-je apprendre.
Quels sont les outils de transformation? Alors, il y en a qui ont peut-être plus de prédispositions naturelles à le faire. D'autres ont besoin d'être accompagnés. D'autres peut-être ont juste besoin de lire « On est foutu, on pense trop, pensouillard, le hamster de Serge Marquis ». On arrive au terme de cet échange, Serge. J'aimerais vous poser une question pour terminer. Quelle est la dernière fois que vous vous êtes adapté? Parce que si j'entends bien tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous dites au quotidien, en fait, c'est une adaptation permanente à l'environnement dans lequel on est.
Ce matin même, j'ai reçu un courriel de ma sœur me disant que mon frère était entré à l'hôpital et qu'il a dû subir une intervention chirurgicale majeure. Curieusement, majeure à cause de son âge, mais il a eu une crise d'appendicite, mais après ça, il a fait une occlusion intestinale, bon, etc. Et je ne sais pas dans quel état il est présentement, pendant que je vous parle. Alors, j'ai dû m'adapter à ça, parce que mon cerveau, ma tête, mon hamster commence à construire les scénarios catastrophes, les pires. Alors, il faut apaiser, retourner à ce sur quoi je peux agir, écrire à ma sœur, patiemment attendre des nouvelles, croiser mes doigts en leur disant qu'est-ce que je peux faire à distance, lui écrire un mot à lui peut-être, etc. Alors, c'est ça, s'adapter. Voilà.
Eh bien, on vous souhaite une bonne adaptation en tout cas et on souhaite un bon rétablissement en tout cas à votre frère. Merci beaucoup d'avoir été à notre micro depuis la Fabrique du Changement, Serge Marquis. On vous souhaite une bonne continuation. Plaisir de vous retrouver très prochainement sur RCF ou ailleurs. Merci beaucoup. À très bientôt.
Merci Patrick.
On continue tout de suite avec nos deux invités des 7 minutes pour changer le monde. On va faire un tour du monde de l'Odyssée avec un Odyssée managérial avec nos deux invités, Romain et Clément Meyer. Ce sont nos invités des 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, et on continue notre émission depuis la Fabrique du Changement au Château de la Poterie et on va partir en voyage puisqu'avec nos 7 minutes pour changer le monde, j'ai la joie d'avoir à mes côtés ou plutôt en face de moi deux frères, Clément et Romain Meyer. Ils ont participé en 2022 à l'Odyssée managériale, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont été payés ou ont trouvé des fonds, ils nous le diront, pour aller se balader pendant 6 mois à travers le monde en essayant de trouver des nouveautés, des innovations dans le management. Et je vous rassure, ça fonctionne, ils n'y sont pas allés pour rien. Je les salue. Bonjour Romain, bonjour Clément.
Bonjour Patrick.
Alors, qui est qui ici? Romain est en face.
Exact.
En face de moi et Clément à ma gauche. Alors avec vous, on va évoquer ce parcours, hein, l'Odyssée managériale. C'est ce qui vous a fait un petit peu connaître. Vous faites un petit peu le tour de France et des fabriques du changement à travers la planète, j'ai presque envie de dire, pour évoquer votre Odyssée managériale qui s'en est suivi aujourd'hui d'un Odyssée managériale, mais en France. C'est ça, Clément?
Exactement. Donc nous, en 2022, on a fait ce tour du monde avec l'Odyssée managériale. Donc ça a été 8 pays, 100 entreprises rencontrées, 200 collaborateurs. Et là, depuis, on est rentré, on a partagé ça en conférence, on a créé une autre entreprise qui s'appelle Le Meilleur d'ailleurs. Et on fait une exploration française sur le sujet de l'engagement.
Romain, comment est partie cette idée de l'Odyssée managériale? Comment vous vous êtes retrouvés déjà à être tous les deux embarqués dans cette aventure?
De plusieurs leviers qui nous ont motivés à partir avec Clément. Déjà, le temps et la disponibilité. C'est la première fois qu'on était disponibles tous les deux pour pouvoir partir. Clément était en classe préparatoire, moi j'étais à l'Université Paris-Dauphine. Et surtout, ce qui nous a motivés, c'est que, alors moi personnellement, Clément pourra raconter parce qu'on a des raisons personnelles différentes.
Ouais.
Mais moi, il y a trois leviers que je raconterai d'ailleurs en conférence ce soir. C'est le premier point, c'est le manque de reconnaissance, le manque d'authenticité et l'exhortation de mes managers à être une personne différente de ma vie pro et perso, que je ne supportais pas. Étant un petit rebelle dans l'âme, je me suis dit que si je devais travailler encore 38 ans comme ça, j'allais juste péter un câble. Donc, donc je me suis juste amusé à essayer de comprendre comment je pouvais aller voir ce qui se passait ailleurs. Est-ce qu'il existait d'autres formes de travailleurs? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient peut-être assez fous pour casser les codes de l'entreprise traditionnelle?
Et peut-être plus loin, trouver s'il n'y avait pas une organisation qui correspondrait peut-être à vos modes de fonctionnement.
Exactement. Ouais. Est-ce qu'elle existe?
Ouais, c'est ça. Et alors la réponse, elle n'existe pas en fait.
Non, je pense qu'elle existe.
Elle existe.
Ouais, je pense qu'elle existe. Ça sera peut-être un micmac de toutes les boîtes, des 200, tu vois. Mais non, elle existe. C'est sûr qu'il y a des personnes qui font des choses très bien.
Et vous, Clément, quelles étaient les raisons? Alors donc, on a compris qu'il y avait un temps commun qui s'ouvrait pour tous les deux. Et vous, c'était quoi votre raison?
Donc moi, j'étais à ce moment-là en école de management à l'UM Lyon. C'est assez dingue parce que c'est des écoles qui forment les futurs managers. Et je me rendais compte que j'avais très peu de cours sur ce qu'est pour moi un bon manager, à savoir aucun cours sur l'intelligence émotionnelle, sur comment on gère une réunion, la manière de faire des feedbacks et tout ça. Et du coup, ça m'a beaucoup questionné, aussi beaucoup d'interrogations avec mes amis, on sentait qu'il se passait quelque chose sur la manière de rentrer dans le monde du travail, des envies qui n'étaient pas exactement celles qu'on avait pu voir chez nos parents. Et donc, voilà, cette envie de partir à l'aventure, d'expérimenter, de voir ce qui se passait sur le terrain et d'aller découvrir ça. Il faut savoir d'ailleurs que l'Odyssée Managériale est une association qui a été créée par deux étudiants, donc on n'est pas à l'origine.
C'est ça, vous n'êtes pas à l'origine, vous rendez à César.
C'est important.
Vous rendez à César ce qui est à César, et comme je le disais en introduction, vous avez plutôt recherché des fonds pour partir et vous n'avez pas été payé pour ça. Ceci étant, vous avez, grâce à ces fonds, pu faire un tour, on va pas dire un tour du monde. Vous avez visité combien de pays exactement, Clément?
On est allé dans 8 pays avec une logique de couvrir le plus possible les continents. On est allé en Norvège, en Islande, ensuite Brésil, Colombie, ensuite États-Unis, Canada et Corée du Sud et Vietnam. On n'a pas fait le continent africain qui avait été fait par le duo précédent, donc on fait un équilibre aussi entre les différentes promotions qui partent. Voilà, donc 8 pays différents, ce qui n'est pas du tout un tour du monde en effet. Mais
Alors vous avez fait des découvertes dans ces deux pays. Déjà, est-ce que vous êtes raccord sur les entreprises qui vous ont et sur lesquelles vous avez eu des coups de cœur managériaux ou pas?
Ouais, carrément. Romain. Il y en a une qui ressort énormément qui s'appelle Miles en Norvège. Ouais. C'est la première fois où on est ressorti de la rencontre, on s'est regardé. Et là, je dis à Clément, je pense qu'on verra pas mieux pendant le tour. Et on a vu des choses extraordinaires après, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu aussi fort. C'est une boîte qui a un cabinet de conseil en IT avec 200 personnes qui a réussi à créer une culture de confiance assez extraordinaire en travaillant la sécurité psychologique, en travaillant la culture de soins de manière très exacerbée. Voilà, et c'est une rencontre moi qui m'a énormément marqué. Qu'on pourra raconter 2-3 pratiques après.
Ouais, parce que en préparant notre échange, j'ai vu, lu et entendu que ce qui vous avait le plus marqué, c'était de mettre le bien-être des collaborateurs avant le business, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de sortir un collaborateur qui allait pas bien et de perdre un contrat plutôt que de faire continuer un collaborateur qui va pas bien sur un contrat qui n'allait pas bien finalement.
C'est ça, en fait c'est une pratique qui s'appelle le taking de température. Donc tous les trimestres ils envoient un questionnaire aux collaborateurs, ils doivent répondre de 1 à 6, 1 étant la pire note et 6 la meilleure. Et il y a une des questions, c'est comment tu te sens avec ton client. Et en fait quand un collaborateur répond par exemple 1 ou 2, donc il se sent pas du tout bien dans la mission avec le client, la dirigeante qui s'appelle Kate va essayer de trouver une solution, va échanger avec lui. Et ce qui est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de Miles, c'est que quand il n'y a aucune solution qui est trouvée et que le collaborateur se sent encore mal dans la mission, elle est prête à casser le contrat. C'est des contrats qui sont entre 70 et 100 000 euros. Donc le message qu'elle nous passait, c'est le bien-être des collaborateurs est plus important que mon chiffre d'affaires. Ce qui après évidemment crée un cercle super vertueux de confiance, d'engagement de la part des personnes.
Et vous Romain, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette entreprise? Donc ça c'est le tips de Clément. Le vôtre, il y en a un autre peut-être qui vous a marqué dans cette entreprise chez Miles?
Il y en a deux pratiques moi qui m'ont énormément marqué. La première c'est une pratique de recrutement. Alors quand on la raconte en conférence en France, ça hérisse le poil de tout le monde parce que ça vient rentrer dans l'intimité. Mais en fait ils ont une pratique de recrutement qui est assez singulière. Le premier round et deuxième round est très classique. On regarde si la personne va être en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Deuxièmement, on va vérifier les skills, les compétences. Et troisième, ils vont, à la fin du deuxième entretien, ils vont demander au candidat ou à la candidate de lister 10 personnes que Miles va appeler pour juste creuser la personnalité du candidat ou de la candidate. Et c'est pas fait de manière malveillante. Et donc, en France, quand on le raconte, on fait, ah, là, ils vont rentrer dans mon intimité, etc. Non, c'est juste, on va essayer de comprendre comment toi, Patrick, tu te comportes dans ton équipe de foot. Si ton ancien professeur d'histoire, il avait remarqué quelque chose de précis chez toi en termes de personnalité que toi, nous, on n'aurait peut-être pas vu pendant ton entretien. Et en fait, ils ne recrutent pas la personne tant qu'ils n'ont pas appelé ces 10 personnes-là. Moi, ça m'avait énormément marqué. Et la seconde, c'est Kate qui invite la dirigeante, qui s'appelle pas dirigeante d'ailleurs, qui s'appelle Daily Servant Leader. Elle a changé son nom et le CEO s'appelle Group Servant Leader. Je me mets au service des collaborateurs et c'est leur nom sur LinkedIn, sur leur carte. Ouais, il y a quand même leader, ouais, faut pas déconner. Kate, elle invite les familles des collaborateurs la veille de Noël, mais sans les collaborateurs, pour expliquer aux familles ce que font papa, maman, votre femme, votre mari, et pourquoi ils doivent être fiers de ces personnes-là au quotidien. Mmh. Et ça crée un sentiment de confiance, de lien d'intimité entre les familles, entre la personne, entre les employés, qui est génial. Moi, c'est ces deux pratiques-là qui ressortent beaucoup chez Miles. Après, on en a eu des dingues au Brésil, en Islande, au Vietnam particulièrement, qui ont été super intéressantes.
De ce que vous avez pu voir dans ces expériences, est-ce que c'est lié essentiellement à la culture, c'est-à-dire que ce qui fonctionne c'est chez Miles, par exemple, que vous venez de nous évoquer, est-ce que ça fonctionnerait en France, ou est-ce qu'il y a quand même une question de culture du pays qu'il faut intégrer aussi dans cette manière de fonctionner?
C'est une très bonne question. Là, à toutes les conférences, et c'est vrai qu'avec Clément, on essaie de dire que c'est pas impossible, en fait. Mmh. Effectivement, t'as une empreinte de la culture sociétale sur ta culture d'entreprise. Par exemple, créer une culture de confiance en Norvège va être plus simple puisque elle est hyper ancrée. En Norvège, Clément pourrait te parler du NIAD, qui est une pratique norvégienne.
Du NIAD.
Tu veux la raconter?
Non, vas-y, continue.
Mais ce qu'on veut dire, c'est que notre conviction avec Clément, c'est que à l'échelle d'une équipe, tu es capable de créer la culture que tu souhaites. Ça peut prendre du temps. Alors évidemment, si tu veux aller créer un sentiment de gouvernance horizontale en Corée du Sud, tu vas peut-être avoir un peu plus de mal parce que c'est une société qui est très hiérarchisée, qui est très ancrée encore sur le système autoritaire et militaire. Mais si tu expliques aux gens, c'est du change management, hein, si tu expliques aux gens la valeur que ça va apporter, si tu te sépares des éléments qui vont être perturbateurs pour ta transformation et que tu prends justement les gens moteurs avec toi, t'es tout à fait capable de le faire. Et moi, je suis très certain que c'est une mauvaise excuse de dire ah oui mais c'est norvégien donc je peux pas le faire, ah c'est coréen je peux pas le faire. Non, il faut, je pense, tenter, regarder, convaincre et puis après tester.
Alors aujourd'hui vous avez créé votre entreprise Regard d'ailleurs, c'est ça?
Le meilleur d'ailleurs.
C'est ça. Vous avez donc importé toutes ces techniques managériales dans votre entreprise, où pour l'instant vous êtes combien?
On est tous les deux.
Tous les deux.
Ouais, exactement.
Vous l'avez créé il y a combien de temps maintenant?
Ça fait 4 mois qu'on a créé l'entreprise.
Donc c'est tout neuf.
C'est tout neuf.
Et avec quel objectif alors?
Nous, l'objectif, c'est vraiment de continuer les explorations et de transmettre ce contenu qui est frais, qui est innovant de manière différente. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on synthétise. C'est-à-dire que notre métier, c'est absolument pas de dire aux managers ce qu'ils doivent faire. C'est pas d'apprendre le métier des managers. C'est de synthétiser les actions qu'on voit. Mmh. D'en faire quelque chose d'intelligible et de le transmettre. Mmh. Moi, la conclusion que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un changement de paradigme dans le monde du travail qui est assez important, qu'il y a plein de pionniers qui testent des choses, mais de manière disparate. Mmh. Donc, on va avoir des pionniers en Norvège, en Corée du Sud, un peu dans tous ces pays, et en France, évidemment. Nous, notre rôle, c'est d'aller voir tous ces gens-là, de rassembler tout ce qui est fait et d'en faire quelque chose qui est intelligible et intéressant pour des personnes qui ne sont pas encore dans ce chemin-là.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. On se retrouve en podcast sur rcf.fr tous les vendredis dès 17h à 14h tous les samedis sur les 64 radios locales et sur toutes les plateformes de podcast dédiées. À très bientôt. Au revoir.